Nous poursuivons notre cycle de conférences, une année pour découvrir Saint Augustin, père et docteur de l'Église, avec une seconde conférence présentée par le père Michel Leclerc, enregistrée dans le cadre de l'école de prière de la formation permanente du Béarn. Aujourd'hui, le père Michel Leclerc évoquera pour nous la prière ou le retour à l'intériorité chez Saint Augustin. Il était enregistré le 18 novembre dernier à Pau. Nous écoutons le père Michel Leclerc.
Donc on avait dit que vraiment la vie de Saint Augustin est marquée par ses deux ou trois conversions. Voilà, c'est un saint qui a passé sa vie à se convertir, c'est-à-dire que le Seigneur l'a conduit chaque fois plus près de lui, en l'approchant de lui, et en lui faisant prendre conscience que ce qu'il cherchait en dehors de lui, en fait, était en lui, et c'était Dieu lui-même. Alors on avait dit première conversion, on va dire la conversion à la vérité. Deuxième conversion, c'est la conversion au Christ. Et la troisième conversion, c'est la conversion à l'Église et aux frères. Voilà, Dieu est aussi dans mon frère. En servant mon frère, c'est Dieu lui-même que je sers. Donc, certains ont dit que Augustin avait une spiritualité de la conversion. On a même dit une métaphysique de la conversion, c'est-à-dire que toute sa pensée est marquée par l'idée que Dieu vient nous convertir, c'est-à-dire nous retourner. C'est aussi un des sens de la conversion. On est retourné comme un gant. La conversion, dit saint Augustin, c'est l'aversion pour le monde, le diable et les créatures, et la conversion ad Deum, la conversion vers Dieu. Je me tourne vers lui pour le désirer. Aujourd'hui, donc, je commenterai le chapitre qui commence à la page 21, parce que le premier chapitre, c'est finalement l'histoire de la vie de saint Augustin. Donc ce chapitre, ils ne sont pas numérotés. Donc ce chapitre qui s'appelle « Reviens à ton cœur », comme expérience fondamentale de la prière chez saint Augustin, c'est le retour au cœur, le retour à l'intériorité. Si on a le temps, on débordera sur le chapitre suivant, les deux grands aspects de la prière, le désir et la louange. Alors, la première chose à souligner, la dernière fois on avait dit Augustin cherche le bonheur toute sa vie. Augustin est né comme un jouisseur qui veut jouir de la vie, qui cherche la joie, et il n'a jamais changé. Simplement, il a compris que la jouissance absolue, la joie absolue, le bonheur absolu, c'est Dieu lui-même. Et que l'homme n'est donc pleinement heureux, et il n'est donc pleinement lui-même, parce que l'homme est fait pour être heureux. Et donc l'homme est achevé quand il se repose dans son bonheur qui est Dieu. Tu nous as fait pour toi, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en toi. On le chante, on le lit souvent. Le repos chez saint Augustin, ce n'est pas la sieste. Je dis ça bien qu'il soit 14h30. Vous voyez, chez nous, on entend repos comme une demi-activité. Chez saint Augustin, le repos, c'est la plénitude. Je vous avais dit la dernière fois, être en repos, c'est être dans son lieu. Si, par exemple, je lâche ce marqueur comme ça, eh bien, il descend dans son lieu qui est le bas. Il est en repos quand il est en bas. Il ne va pas rester en suspension dans les airs. Eh bien, le lieu de l'homme, le lieu auquel il tend, c'est Dieu lui-même. Donc l'homme est en repos, c'est-à-dire il est achevé, il est pleinement en place. Saint Augustin dira il est formé quand il est en Dieu. Et donc ça, c'est une question d'anthropologie théologique, de compréhension de l'homme à la lumière de la foi, mais l'homme n'est vraiment lui-même qu'en Dieu. Ce qui veut dire que pour Augustin, la prière, c'est pas un plus qui est réservé à une élite, c'est pas quelque chose qu'on ferait pour se sentir bien, c'est une nécessité pour la nature humaine. Un homme qui ne prie pas, c'est un homme qui n'est pas fini. Voilà, c'est une nécessité humaine. Alors, qui est encore rendue plus urgente par l'incarnation, par le fait que Dieu est venu dans la personne de Jésus venir nous sauver et donc nous appelle à une réponse. Mais pour saint Augustin, un homme, sa définition même, c'est un être de prière. Et c'est ce qu'on va voir ici, aujourd'hui. C'est vraiment la prière comme plénitude de l'activité humaine. Alors, le premier point, qui n'est pas cité là au début du livre, c'est... vous trouverez ce texte au tout début des Confessions, si vous voulez le retrouver. Donc la première page des Confessions de saint Augustin, c'est le texte où saint Augustin dit « Longtemps je t'ai cherché, ô beauté si ancienne et si nouvelle, etc. » Voilà, « Longtemps je t'ai cherché ». Vous savez, souvent, les premiers mots d'un livre disent ce qu'il y a dans le livre. Marcel Proust commence par « Longtemps je me suis couché de bonheur ». Mais Augustin dit « Longtemps je t'ai cherché, toi, alors, ô beauté si ancienne et si nouvelle », il s'adresse à Dieu, et il dit « je t'ai cherché partout, je t'ai cherché dans les choses, je t'ai cherché dans le monde, je t'ai cherché dans les autres, et tu étais au-dedans de moi. » Voilà. « Je t'ai cherché à l'extérieur de moi, mais tu étais en moi. Je me dispersais en dehors de moi. » Je m'agitais et j'ai dû revenir à moi-même. Et donc, ça, c'est le fondement de l'expérience de la prière de saint Augustin. C'est ce qu'il a découvert dans sa première conversion, c'est qu'il s'agitait vers l'extérieur et que tout d'un coup, il a pris conscience que Dieu était à l'intérieur. Tu étais en moi. Je te cherchais dehors et tu étais en moi. Et ça, c'est la découverte de ce qu'on appelle l'intériorité. L'intériorité, qui n'est pas ici une intériorité vide, il y a différents types d'intériorité, vous voyez, un bouddhiste vous parlera d'intériorité, mais le but du bouddhiste, c'est de faire le vide dans son intérieur. Saint Augustin découvre une chose tout à fait singulière, c'est qu'à l'intérieur, il y a un autre, il y a Dieu. Mais que Dieu habite le cœur de mon cœur. On va dire « Dieu est plus intime à moi-même que moi-même ». Alors, pour ça, il a une expression. Il dit que pour trouver l'intériorité, il faut d'abord faire un pèlerinage vers le centre de moi-même. Donc, il y a ce mouvement qui est d'abord descendant. Vous voyez, je suis là, habituellement. Et je descends vers mon centre. Et le centre de moi-même, c'est mon cœur. Grâce que ça veut dire le cœur, ici. Mais il dit, le pèlerinage vers le centre devient, à cause de ce qu'on trouve au centre, un pèlerinage vers le haut, c'est-à-dire vers Dieu. Donc, vous voyez, il y a un double mouvement. Je descends en moi, mais ce n'est pas pour y rester. Ça serait de la méditation transcendantale, de la concentration. Vous voyez, on peut dire... une forme de méditation, c'est de prendre conscience de ce que je suis, de ce que je sens. Voilà, concentrer ses forces. C'est pas ça à quoi nous invite Saint-Augustin. Il nous dit, descends jusque dans ton cœur pour y trouver un autre que toi-même qui réside exactement dans ton cœur, c'est-à-dire là où toi-même, tu es le plus toi-même. L'endroit où je dis « je », en vérité, l'endroit où je suis le plus libre, c'est mon cœur. Mais quand je dis quelque chose avec le cœur, je le dis avec ma personne tout entière. Ça m'arrive, vous voyez, ce matin, là, j'avais des ouvriers qui me posaient une question, ils me disaient, les spots, est-ce qu'on les décale ou est-ce qu'on les met au milieu? En même temps, le chauffagiste qui me disait, on a mis le chauffage, il y a trois radiateurs qui fuient. Je disais un peu à tout le monde des réponses, je ne le disais pas avec mon cœur. Je disais, oui, ok, les spots à droite, les radiateurs, on n'a qu'à couper. Voilà, on parle parfois de manière automatique, on parle avec superficiellement. Si je veux vous dire quelque chose avec mon cœur, je suis obligé de descendre en moi-même pour trouver l'endroit où je peux dire « je » en vérité. Vous voyez, quand un homme dit à une femme, quand une femme dit à un homme « je t'aime », on ne dit pas ça entre deux portes. On va le chercher au fond de soi. Eh bien, ce lieu, c'est ce que saint Augustin appelle le cœur. Et dans le même lieu, dans le cœur, on va le dessiner en rouge, je commence par trouver mon « je », c'est-à-dire mon intimité, ma liberté, mais en même temps, ce « je », je vois qu'il il pousse en dehors de lui, il désire, et il désire Dieu qui déjà se donne. On verra peut-être aujourd'hui ou sinon la prochaine fois. Et donc vous voyez, dans mon jeu, au fond de moi, je fais l'expérience que je désire Dieu et que l'endroit où il se donne, c'est mon cœur. Voilà, donc cette descente vers le cœur, c'est le premier acte de la prière pour pouvoir remonter vers Dieu. Donc ça, c'est vraiment important parce que Augustin va beaucoup parler de... Alors, vous en trouverez ça, par exemple, dans les soliloques. Les soliloques, c'est un petit livre de prière, au fond, saint Augustin. Soliloque. Les modernes, parfois, disent saint Augustin, c'est quelqu'un qui est introverti et qui fait de l'analyse, de l'auto-analyse de lui-même. Non, pas du tout. S'il descend au fond du cœur, c'est parce que là, il peut remonter vers Dieu. Parce que dans notre cœur, nous trouvons un autre. Et puis, trouvons celui qui est l'autre, avec un grand A, qui est Dieu. Voilà, donc c'est là-dessus que je voudrais insister aujourd'hui, pour trouver le vrai sens du recueillement. Donc, la grande phrase d'Augustin sur ce sujet, c'est « Reviens à ton cœur. Hein, reviens à ton cœur qui est pas seulement « Reviens à toi », mais « Reviens à ton cœur pour y trouver Dieu. » Et cette phrase « Redi ad cor », c'est une phrase qui avait beaucoup marqué Saint John Henry Newman, qui est maintenant docteur de l'Église, hein, qui a beaucoup développé cette idée de retourner au cœur. Alors Newman dit « Le cœur ou la conscience » comme le lieu de la découverte de Dieu qui m'éclaire. Et ce qui est très intéressant pour aujourd'hui, c'est que, je fais une petite parenthèse théologique, c'est que le lieu du cœur, c'est un lieu où l'opposition entre moi et l'autre se résout. Vous voyez, je vous donne un exemple. Parfois on dit, par exemple, la loi morale, la loi de Dieu, les 10 commandements, s'imposent à moi de l'extérieur. Et ça peut être pesant, ça peut être lourd, ça peut être... vous voyez, la philosophie moderne va dire, est-ce que ça respecte ma dignité de personne libre? Eh bien, Augustin va dire, mais non, Dieu me donne sa loi, mais il me la donne dans mon cœur. Donc elle se révèle à moi comme quelque chose de moi. Vous voyez, Dieu ne me parle pas de l'extérieur, il me parle par l'intérieur, il me parle en moi, et donc je sais que ce qu'il me dit n'est pas comme des consignes comme me donnerait un supérieur extérieur, mais c'est celui qu'Augustin appellera le maître, c'est bien un maître, mais le maître intérieur. Donc le maître intérieur... Quand il me parle, ce qu'il me dit ne s'impose pas à moi comme un fardeau, c'est comme si cela venait de moi. Vous voyez, c'est le lieu où il y a à la fois je et Dieu, et donc quand Dieu me parle, c'est comme si je me parlais à moi-même. Donc ce qu'il me dit, y compris ce qu'il me commande, ne me pèse pas, puisque c'est moi-même qui me dit, pour aller au bonheur, il faut passer par là. Voilà, donc ça c'est très important de bien comprendre, alors en termes techniques, c'est le dépassement de l'opposition entre objectivité et subjectivité, ça c'est pour avoir l'air très intelligent, mais voyez, c'est une expérience que l'on fait en nous, c'est que la parole de Dieu, la parole intime, ne s'impose pas à nous comme celle d'un maître extérieur qui nous réduirait en esclavage. C'est, vous voyez, ça, c'est ce qui permet, et Newman a beaucoup insisté là-dessus, c'est ce qui permet de répondre aux critiques modernes qui disent « Vous, les chrétiens, vous êtes des esclaves. Vous êtes les esclaves d'un Dieu qui vous impose des lois par le moyen de son Église. Vous vous soumettez et vous n'êtes pas vraiment libre. » Et Newman dira maintenant, grâce à Augustin, nous savons que le lieu du cœur, le lieu de la conscience, ce n'est pas le lieu du subjectivisme où je fais ce que je veux. C'est le lieu où je découvre et reçois la parole de ce Dieu qui se donne à moi comme un ami. Donc voilà, ça c'est premier point. Deuxième point, saint Augustin dira « Si je ne suis pas dans mon cœur, je suis comme en exil. Je ne suis pas dans ma vraie patrie. Le mon lieu, vous voyez, je vous parlais du lieu, hein, peut-être, le lieu où je suis en repos, c'est mon cœur. » Et quand on n'est pas dans son cœur, on est en souffrance ou dans l'illusion. Voilà, comme un exilé qui souffre, qui n'est pas à sa place. Et donc, ce sera un but habituel d'essayer de retourner au cœur, de vivre dans son cœur, pour être à la fois pleinement soi-même et pleinement à l'écoute de Dieu. Et donc, vous voyez, je pense que ça, c'est une chose intéressante. Chaque fois que nous nous disons « ça ne va pas », je me sens pas bien, je suis... Ben, nous pouvons nous dire, retourne à ton cœur. Est-ce que tu es dans ton lieu? Est-ce que tu es à ta place? Retourne à ton cœur. Alors, on peut sortir de son cœur, soit en se laissant absorber par les choses extérieures, soit en se laissant absorber par ses passions, par ma colère, par ma tristesse, par... ça peut être colère, tristesse, ça peut être ma joie, une joie trop sensible qui m'absorbe et qui fait que je ne suis plus dans mon cœur, je ne suis plus dans ce lieu où je peux entendre Dieu, je ne suis plus moi-même. Et vous voyez, si vous avez travaillé les maîtres du Carmel l'année dernière, vous reconnaissez ici des choses très similaires, tout simplement parce que cette idée passera dans la grande tradition chrétienne, dans la grande spiritualité chrétienne, qui est celle de ce qu'on appelle le cœur profond, la fine pointe de l'âme, hein, dans la spiritualité carmélitaine. C'est que, un peu comme la mer, ici, parfois, à la surface de la mer, c'est la tempête, il y a des grandes vagues. Et si je descends au cœur, dans mon cœur, si je reviens à mon cœur, ben, comme au fond de la mer, si vous avez fait de la plongée, c'est toujours calme. Ah, c'est une expérience qu'on fait quand on fait de la plongée sous-marine. On est en train de nager quelques mètres sous la surface de l'eau et c'est calme. Et puis on remonte à la surface et on se rend compte que depuis qu'on a plongé, ben, le temps a changé et que c'est la tempête à la surface et que nous, on ne l'avait pas vu. Et c'est exactement la même chose pour nous. Voilà, si je me discute avec l'abbé... avant Buru, je vais rentrer et puis je dis « Oh, il m'énerve, pourquoi il me dit ça ?» etc. Vous voyez, je vais être là. Je vais être dans la tempête. Et si je me dis « Retourne à ton cœur, à mon cœur, qu'est-ce que je trouve ?» Moi, mon jeu profond n'a pas bougé et Dieu n'a pas bougé. Voilà, donc c'est vraiment important. Dès que je ne suis pas dans mon cœur, je suis en exil. Je suis hors de moi. D'ailleurs, l'expression « être hors de soi » le dit très bien, alors on le dit à propos de la colère surtout, mais on pourrait le dire à propos de n'importe quel événement, passion ou objet extérieur qui me fait sortir de moi-même. Et saint Augustin nous dit « Redi ad cor », c'est-à-dire « retourne à ton cœur ». Donc dans mon cœur, je trouve... cet autre, ce Dieu, plus intime à moi-même que moi-même. Alors, ça aussi, je voudrais le commenter. C'est quelque chose qu'on trouve très souvent, un Dieu plus intime à moi-même que moi-même. Intimior, intimo meo, mais... qu'est-ce que ça veut dire exactement? Moi, pendant longtemps, j'entendais ça, puis je me disais, plus intime à moi-même que moi-même. C'est pas très clair, en fait, comme phrase. Mais c'est que... ici, j'ai dessiné, vous voyez, « je » et « Dieu ». Mais il faudrait dessiner différemment et dire Qu'est-ce que c'est que le cœur ? C'est le je, mais au cœur de ce qui me permet de dire je, il y a Dieu. Dieu est au centre de mon âme. C'est pour ça qu'il est plus intime à moi-même que moi-même. Moi-même, c'est vous voyez, bon, c'est toute ma personne, mais le lieu qui dit moi, c'est ça. Et au plus intime de ce moi, Dieu habite. Et Dieu est un autre. Au plus intime de moi, il y a un autre qui me parle. Ce qui fait... Alors, on reverra la notion de désir. C'est que, au plus intime de moi-même, je trouve quelqu'un d'autre. Et donc, ce quelqu'un d'autre, je le désire. Ça, je ne m'étends pas, parce que ce sera l'objet de... Normalement, de la prochaine rencontre, on travaillera beaucoup sur le désir comme prière. Donc, premièrement, le désir. Et deuxièmement, ce qu'on va revoir aujourd'hui, ben, je prends conscience que mon âme est un sanctuaire. Qu'est-ce que c'est qu'un sanctuaire ? Un sanctuaire, c'est un lieu saint. C'est un lieu où je fais l'expérience que Dieu habite. Vous voyez, dans l'Antiquité, il y avait dans les temples, vous alliez... Si je fais un plan, si vous allez en Grèce, à Athènes par exemple, au Parthénon, le grand temple qui est au-dessus d'Athènes, là, avec les colonnes, donc vous avez les colonnes là, tac, une grande porte. Ici, donc, ce qu'on appelait le pronaos, c'est-à-dire l'endroit où tout le monde pouvait rentrer. Et puis généralement, un rideau ou une cloison avec une porte. Ici, le naos ou sanctuaire. Ça, c'est en grec, peu importe. Naos, le sanctuaire, c'est le lieu où réside la divinité et où ne rentre que le prêtre. Dans le temple de Jérusalem, ce sanctuaire, il s'appelle le Saint des Saints. Dans le Saint des Saints, il y a l'Arche d'Alliance et le grand prêtre n'y rentre qu'une fois par an pour prononcer le nom de Dieu le jour de la fête des expiations. Donc au cœur du sanctuaire, on est face à Dieu. Donc quand je descends dans mon cœur, je monte dans le sanctuaire. Vous voyez, je rentre dans ce sanctuaire où Dieu habite. Et ce sera la deuxième grande idée avec le désir. Ça sera, ben, pourquoi je vais dans le sanctuaire ? C'est, je suis comme le grand prêtre face à Dieu. Qu'est-ce qu'il doit faire le grand prêtre dans le sanctuaire ? Il doit louer Dieu. Il doit adorer Dieu. Et donc, tout homme, toute femme qui prie accomplit un acte sacerdotal, un acte de louange. On verra la prochaine fois, je fais juste un teaser, comme on dit aujourd'hui. Alors, petite question aussi théologique. Pourquoi Dieu habite au cœur de mon cœur, dans mon âme ? Il y habite de deux manières différentes. D'abord parce qu'il m'a créé. Et donc Dieu habite, est présent dans tout ce qu'il a créé d'une présence qu'on appelle la présence d'immensité. Voilà, il a laissé sa trace en toute créature. Et en moi-même, sa présence d'immensité, elle est particulière puisque je suis une créature libre comme lui, capable d'intelligence et d'amour. Comme lui. Donc il y a en moi une présence de Dieu à cause de la création. Mais cette présence n'est pas une présence personnelle. C'est une présence de trace. Voilà, il a laissé sa trace. Mais par mon baptême, il y a réellement en moi une présence, alors qu'on peut dire présence réelle, pas la présence eucharistique, mais une présence réelle, qui est la présence de la grâce. Et les théologiens appellent cette présence de Dieu l'inhabitation. L'inhabitation, vous voyez, c'est un mot qui est formé avec « in », qui veut dire « dedans », et « habitation ». Dieu vient habiter l'âme du baptisé. Quand je baptise un petit enfant, au moment où je verse l'eau sur son front en disant « Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit », réellement, pas symboliquement, réellement, la Trinité tout entière se rend présente dans son âme. Et c'est ça le fondement de la prière. Le fondement de la prière pour saint Augustin, c'est que Dieu, je n'ai pas besoin de hurler ou d'aller le chercher. Il est en moi. Il y est vraiment. Il inhabite en moi. C'est Origène, c'est pas un père de l'Église, mais presque, un auteur de l'Antiquité, disait que quand son fils a été baptisé, il a embrassé le cœur de son fils, le cœur de son petit bébé, en disant « Dieu réside vraiment dans ce temple ». Moi, j'aime bien demander ça aux parents quand je baptise un petit bébé, de dire aux parents ben, « Vous pouvez embrasser votre bébé, parce que de nous tous, c'est lui qui a la présence de Dieu la plus sainte, puisqu'il sort de son baptême, Dieu est entièrement présent en son âme ». Vous voyez, le fondement théologique de cette doctrine augustinienne, c'est l'inhabitation. Donc la présence de grâce, Dieu qui vient comme personne, Père, Fils et Saint-Esprit, habiter en notre âme pour nous aimer et pour être aimé. Conséquence de ce que nous venons de dire, Augustin va dire « Mon cœur peut goûter Dieu, peut sentir Dieu, peut comprendre Dieu. Puisqu'il habite en moi-même, je vais pouvoir entrer en relation, et le premier vocabulaire qu'emploie Augustin pour la relation entre l'âme et Dieu, c'est le vocabulaire des sens, des cinq sens. Le goût, l'odorat, la vue, l'ouïe, le toucher. Et ça, c'est quelque chose, alors que Augustin n'est pas le seul à le faire, ça s'est très développé dans la théologie orientale aussi, mais en Occident, il semble que ce soit le premier à avoir utilisé l'idée que, de même que nous avons cinq sens sensibles, vous voyez, ce téléphone, je peux le toucher, je peux le goûter, mais ce ne serait pas très bon, voilà, je peux l'entendre, je peux le voir, qu'est-ce qui me reste ? C'est tout, et le sentir. Voilà. Et bien, Augustin va dire, nous avons des sens spirituels. Et donc, quand je dis, je goûte la présence de Dieu, c'est quelque chose de réel, puisque la présence de Dieu est en moi. Et donc, de même que actuellement, je suis en train de goûter ce qu'il y a dans ma bouche, je suis en train d'entendre ce que je dis moi-même. Je suis en train de sentir l'air autour de moi et ce stylo que j'ai dans la main. Vous voyez, mon corps est en relation avec tout ce qui est autour de moi. Eh bien, actuellement, mon cœur, mon âme est en relation avec Dieu. Et je peux dire en vérité, ce n'est pas seulement une jolie image de poète. Je goûte Dieu, j'entends Dieu. Vous voyez, sentir Dieu, si on le dit parfois, on dit je sens la présence de Dieu qui vient, les bonnes odeurs, voilà. Augustin le dira en disant la bonne odeur du Christ. Il le dit dans la règle de saint Augustin, il dit répandez la bonne odeur du Christ. Donc vous voyez, ce ne sont pas que des images, c'est une manière de dire en s'appuyant, ce qu'on appelle une analogie. De même que je fais l'expérience des choses extérieures avec mes sens, je fais l'expérience de Dieu à travers des sens spirituels. Alors on va surtout utiliser deux sens, le goût et l'ouïe. J'entends Dieu qui me parle. Alors, ça je voudrais vraiment le développer avec vous parce que c'est très important, parce que c'est ce qui nous permet de comprendre ce qu'est un acte intérieur. Si on ne comprend pas ce qu'est un acte intérieur, on ne peut pas comprendre ce qu'est la prière. Si je vous dis, écoutez ce que Dieu nous dit. Moi, je me souviens, quand j'étais novice, on m'avait dit, l'oraison, c'est ça. J'appelle tous ensemble et on écoute ce que Dieu nous dit. Première approche. Moi, novice, j'avais une initiation à l'oraison, à notre âme de vie. Mais je me dis, là, tiens, je n'avais pas compris ça comme ça. La première fois, je me souviens, je me suis dit, ils doivent tous entendre des trucs. Je regardais autour de moi, moi, j'entends rien. Ah, si on fait l'expérience, vous arrêtez à Saint-Joseph en partant, et vous allez écouter ce que Dieu vous dit, vous n'entendrez pas avec vos oreilles. Et voyez, ce qu'on désigne, c'est un acte intérieur. De se mettre à l'écoute de Dieu à l'intérieur pour dire cet acte-là qui est réel, nous utilisons le vocabulaire des sens. Quand on dit goûter la présence de Dieu, non, c'est pas là, hein, c'est pas dans la bouche que je vais goûter la présence de Dieu, mais je vais faire une expérience similaire à celle d'une dégustation, hein, goûter un bon vin. Qu'est-ce que je fais ? Je vais savourer le vin et je vais me laisser envahir par la présence du vin dans ma bouche. Vous voyez, on va goûter un jurançon et on vous dit, tiens, vous sentez premier goût, deuxième goût, on le fait circuler. On se laisse envahir par une saveur. Eh bien, goûter la présence de Dieu, c'est se laisser envahir dans son cœur par la saveur de Dieu. Et donc, ici, ça nous permet de bien dire que la prière sera constituée d'actes intérieurs. Alors, un acte intérieur, c'est un acte réel. Ça, c'est capital. C'est pas parce qu'il est intérieur que c'est un rêve. Et un acte intérieur, il se décide comme les actes extérieurs. Si je décide d'ouvrir la porte, je me déplace pour la porte. Si je décide maintenant d'entrer en contact avec Dieu, réellement, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais lui parler à l'intérieur de moi. Et donc, pour commencer la prière, il va falloir poser des actes intérieurs. On verra lesquels, ce ne sera pas aujourd'hui. Mais vous voyez, quand je dis « parlons à Dieu », qu'est-ce qui va se passer en vous ? Vous allez formuler « Mon Dieu, tu es là, tu es en moi, je t'aime. » Quand on dit « goûter la présence de Dieu », nous allons formuler en nous « Seigneur, je m'ouvre à ta présence. » Et ce que nous formulons en nous, nous le faisons. Vous voyez, nous réalisons réellement en nous ce que nous décidons. « Seigneur, je veux sentir ta présence, je m'ouvre à ta présence. » Je te laisse me parler. Réellement, mes oreilles intérieures s'ouvrent. Ça, c'est, vous voyez, c'est vraiment important. Sinon, on a l'impression que c'est du vide. Toutes ces, quand on nous dit goûter Dieu, l'écouter, tout ça, il ne se passe rien au niveau de nos sens. Et pourtant, il faut faire cet acte intérieur pour qu'il y ait quelque chose. Sans cela, nous vivons dans l'illusion. L'illusion, c'est... Je me mets à la chapelle, je m'assois confortablement sur mon coussin et soit j'attends, moi généralement si je fais ça, je m'endors, soit, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais aller chercher des impressions sensibles, je me dis tiens, là, je sais pas, j'ai chaud, ah c'est Dieu qui me parle, non, il fait chaud dans la chapelle, ou je me sens pas bien, oui, t'as trop mangé, tu digères mal. Vous voyez, c'est... Quand on dit intérieur, c'est pas mes impressions intérieures. Je pose des actes intérieurs. Et c'est très difficile dans un monde où on ne sait pas ce qu'est l'intériorité de faire comprendre ça, ce qu'est un acte intérieur. Quand je dis quelque chose intérieurement, je le fais. Voilà. C'est capital, hein. Vraiment. Sans acte intérieur, il n'y a pas de prière. Alors, je voudrais m'appuyer là sur donc, quelques citations d'Augustin pour vous montrer ça. Je prends celle qui est page 22 en haut de la page. « Seigneur, tu as entendu ma voix quand j'en appelais à toi. » Donc vous voyez... Qu'est-ce que cela veut dire ? Tu as entendu ma voix. Est-ce que Augustin a dû crier très fort ? Non. Mais au fond de son cœur, il a fait l'expérience que Dieu l'a entendu parce qu'il a appelé. Et donc, ça suppose des actes intérieurs d'appel. Vous voyez, ça suppose au fond de notre cœur de dire « Seigneur, j'appelle vers toi, je te supplie, je te demande. » Tous ces actes intérieurs, le Seigneur les a entendus. On emploie ici le vocabulaire de Louis. Cet appel à Dieu n'est point de la voix. Donc ce n'est pas de la langue, mais du cœur. Beaucoup aussi parlaient des lèvres sans rien obtenir, parce que leur cœur était fort éloigné. Ce que cela nous dit, c'est qu'un acte intérieur est d'autant plus vrai qu'il est fait avec le cœur. Plus l'acte intérieur est profond, plus il est dans le cœur, plus il est réel. Si donc tu veux crier vers Dieu, crie du fond du cœur, puisque c'est là qu'il écoute. Alors, vous voyez, ça, c'est des choses qu'on entend régulièrement, mais qu'il faut se remettre devant les yeux. Bien souvent, je ne prie pas du fond de mon cœur, parce que je n'ai pas commencé par revenir dans ce lieu, du fond de moi, où vraiment je peux crier, où vraiment je peux appeler, où vraiment je peux écouter. Ça nous arrive à tous, vous voyez, pas au Père Pierre, mais moi ça m'arrive de dire la liturgie des heures, là, mon bréviaire, et puis je lis le psaume, et puis en lisant le psaume, je me dis, tiens, il faut absolument que je pense à rappeler le vicaire général, etc. Puis à la fin, on arrive à la fin du psaume, gloire au Père, et là on se dit, tiens, je l'ai dit ou pas ce psaume? Je ne sais plus si j'ai dit celui de gauche ou celui de droite. Voilà. Ça nous arrive à tous, hein, où on récite le chapelet. Vous savez, on a le doigt qui arrive au bout de la dizaine, et on se dit, tiens, j'étais en train de réciter le chapelet. En fait, je faisais ma liste de commission, ou mon menu, et, ou mon agenda de demain. Alors, c'est normal, hein, et ça, c'est le problème de la distraction, qu'on verra plus tard. La distraction, elle est prévue. Mais qu'est-ce que c'est que la distraction ? C'est la sortie du cœur. Hein, vous voyez, dans la distraction, je sors du cœur. Et donc, comment je gère ma distraction ? Ben, dès que je m'en aperçois, je reviens au cœur. Voilà. Je reviens au cœur, pourquoi ? Pour poser un acte intérieur, donc un acte du cœur. J'arrive au bout là, de mon chapelet, là, de la dizaine, et puis je me dis, ah tiens, j'étais en train de dire le chapelet. Je ne sais même plus à quelle dizaine je suis, alors je regarde, je ne suis pas à la cinquième quand même, je ne sais plus. Vous savez, moi, quand je n'ai pas mon chapelet, je fais sur les doigts. Donc on ne sait jamais, j'ai 5 ou 10. C'est en voiture, comme ça, souvent en conduisant, comme ça. Je me dis, 5 ou 10, alors souvent on fait une dizaine de 15, parfois de 20, parfois de 5. Bon. Et je reviens, je dis, Seigneur, je veux t'aimer à travers mon chapelet. Je veux t'entendre à travers mon chapelet. Je fais un acte intérieur. Mon acte intérieur, il va peut-être durer 3 secondes. C'est pas grave. Mais je suis revenu au cœur. J'ai fait un acte intérieur, je suis en contact avec Dieu. C'est ce que la tradition thomiste appellera l'acte théologal, l'acte qui me met en contact avec Dieu. Donc ce retour au cœur, c'est le cœur de la prière. C'est l'essence de la prière. Retour au cœur, acte intérieur. Une autre citation d'Augustin, à la fin de la page 22, « Ô vérité », avec un grand V, c'est-à-dire Dieu, « vérité, comme dans l'intime de l'être, même à ce moment, le centre de mon âme soupirait vers toi. » Alors, vous voyez, après le vocabulaire des sens, le vocabulaire là, du soupir, quand on dit « je soupire vers toi », c'est « je te désire, tu me manques ». C'est la grande expérience, on en reparlera la prochaine fois de la prière augustinienne, c'est de dire à Dieu, tu me manques, je te désire. Voilà. Quand on soupire vers quelqu'un, c'est quoi ? C'est qu'on a besoin de lui. Hein ? Je soupire après mon lit, après une journée fatigante, et ah, mon oreiller, enfin ! Vous voyez, ça nous arrive à tous de nous coucher épuisés et de sentir comme un appel de l'oreiller. Mon lit me tend les bras. Vous savez, parfois, vous avez quelqu'un qui reste tard le soir et puis qui n'est pas fatigué, qui vous parle, et vous dites, j'ai qu'une envie, c'est de m'allonger, de dormir. Voilà. Et ben, cette expérience-là, c'est l'expérience sensible du désir. Eh bien, l'acte intérieur du désir, c'est, mon Dieu, tu me manques. Sans toi, je ne suis rien. Je te désire. Tu es mon tout. Vous voyez, le désir s'exerce en acte quand on le formule. je te désire. C'est l'acte d'espérance. Espérer, c'est quoi? C'est désirer Dieu avec la confiance de l'obtenir. On est dans le jubilé de l'espérance. Le jubilé, la vertu d'espérance, c'est désir plus confiance. C'est pas compliqué. Une équation simple. Il faut que j'avance, sinon on n'arrivera jamais au bout. Alors, donc je fais l'expérience dans mon cœur du désir, c'est-à-dire de l'attrait. Un mot important chez Augustin, l'attrait spirituel, c'est-à-dire que Dieu m'attire comme un aimant. Quand je vais au fond de mon cœur, il m'attire. Cet attrait, ce désir, cette attirance est spirituelle. Elle peut aller en même temps qu'une répulsion naturelle. Mais quand je suis au fond de mon cœur, je sais que Dieu est mon bien et donc qu'il m'attire. Quand j'étais petit, ma grand-mère avait un gros aimant qui permettait de récupérer toutes les épingles de la boîte à couture. Et j'y passais des heures à jouer avec l'aimant et les épingles. Alors, vous savez, vous jetez les épingles sur la table, comme un jeu de Mikado, puis vous approchez l'aimant, vous avez toutes les épingles qui tournent se mettre en soleil autour de l'aimant. Et donc, plus on approche l'aimant, puis il y a un moment où, tac, elles viennent se coller à l'aimant. Et bien, quand je lisais Saint-Augustin sur la question de l'attrait, c'est ça qui me revenait en imagination, en mémoire, c'est cet aimant. C'est-à-dire, les épingles sont attirées par l'aimant. On dit « je suis aimanté par un très bon prof, par exemple, pour dire, je suis aimanté par son cours ». Tout attiré. Eh bien, nous faisons cette expérience d'être comme une épingle face à un aimant. Dieu m'attire. Je sais au fond de moi, je fais l'expérience interne, que Dieu m'attire. Ça, d'ailleurs, ce sera... vérifier qu'il y a en moi un attrait spirituel, c'est la racine du discernement pour Augustin. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Vous voyez, pour discerner, par exemple, si je suis appelé à être prêtre, on va d'abord... Est-ce qu'il y a une attirance spirituelle? Est-ce que Dieu m'attire? Qui peut aller avec une répulsion naturelle? Dieu m'attire. Par exemple, je descends dans mon cœur et je suis attiré, j'ai envie de passer du temps auprès de lui. J'ai envie de prolonger ma prière. Mais en même temps, je commence à avoir mal au genou, mal au derrière... et puis envie d'aller regarder sur mon téléphone, et puis envie de me détendre, et avec peut-être même un ras-le-bol de prier. Mais au fond de moi, il m'attire. Et donc, je fais l'expérience que même si le monde, mes passions, mon corps, ma sensibilité me dispersent, si je reviens au cœur, je trouverai toujours, au plus profond de moi, l'attirance divine, l'attrait divin. Dieu me manque. Voilà, je ne suis pas complètement moi-même tant que je ne l'ai pas étreint. Et donc, je suis comme attiré vers lui et je ne peux pas me passer de le chercher. Donc ça, c'est très important. Et du coup, mon cœur se dilate. Dilate ton cœur, hein, ça c'est la deuxième citation qu'on va commenter. Dilate ton cœur, c'est... quand est-ce que mon cœur est dilaté? C'est quand il fait l'expérience de Dieu. Alors, on va faire... je vous propose une expérience sensible. Imaginez que vous avez faim. Vous avez une journée... vous n'avez pas pu prendre de petit déjeuner. Puis la matinée est longue. Et puis il est 14h. Puis on commence à avoir l'estomac noué. Et puis, vous passez devant un bon restaurant et vous sentez l'odeur des cuisines. Vous avez l'image, hein? Et puis alors il fait chaud, c'est l'été, vous avez soif, puis vous êtes en plein soleil, puis là vous entendez le cliquetis du verre avec les glaçons dedans, hein? Vous dites, ah, je rêve, ah, j'en peux plus. Et puis alors on s'assoit à la table du restaurant, et là on boit son Ricard bien frais, avec la petite goutte qui tombe. Et vous savez, le moment où je bois, là, on se dilate. La dilatation, c'est le moment où ce qui nous manquait, nous le possédons. Je reprends l'exemple du lit. Qu'est-ce que je fais quand je me couche après une journée interminable? Je me dis, attends, et je m'ouvre, je me laisse aller. Au lieu de me serrer, je me dilate. Donc, attrait, dilatation, quand je fais l'expérience que je possède. Eh bien, dans la prière, je fais cette double expérience. Toujours, il m'attire, je me dilate, mais il m'attire encore parce que il ne se donne pas encore complètement. Donc, il me manque toujours. D'où cette expérience très particulière de la prière décrit très bien Augustin, c'est Dieu se donne déjà, mais pas encore complètement. Et donc ma prière ne sera complète qu'au ciel. Hein, Dieu ne se donnera vraiment qu'au ciel. Sur terre, je fais toujours l'expérience que je suis à la fois comblé et en manque. Et c'est une expérience caractéristique de la prière, c'est la coexistence de la dilatation, de la joie, d'une part, et de l'attrait du désir souffrant, d'autre part. On le reprendra la prochaine fois. Désir et joie en même temps. Donc ici, je prends à la page 23, c'est dans le paragraphe « Dilate ton cœur », au milieu. « Dieu attire ton âme. Qu'est-ce qu'être attiré par le plaisir ?» Citation du psaume 36. Prends ton plaisir dans le Seigneur et il te donnera ce que désire ton cœur. Il y a un plaisir pour le cœur qui goûte la douceur des richesses de Dieu. Tu as le droit d'être guidé vers le bien, non par la nécessité mais par l'attrait du plaisir, non par le devoir mais par la jouissance. Alors, moi je voudrais insister là-dessus. Un des buts de la prière pour saint Augustin, c'est la jouissance. Parce que mes délices sont en Dieu, comme dit le psaume. Je vais aussi prier pour me réjouir, pas au point de vue sensible, mais pour faire l'expérience que je suis heureux en Dieu. La jouissance pour saint Augustin, ce n'est pas un gros mot. Ça, c'est très important. Voilà, je me dilate dans la prière. Ça ne veut pas dire que c'est facile. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de combat. Parce que pour retourner au cœur, il faut combattre. Mais dès que je touche le fond de mon cœur, il y a un moment de jouissance de Dieu. Et ça, c'est l'expérience de Dieu est toujours une jouissance. Dernier point, il me reste une minute. Je finis là-dessus. C'est ce que vous avez à la page 25-26. Et donc, on reprendra là-dessus la prochaine fois. C'est la question du fait que mon cœur est comme un temple, hein, ce que je vous disais tout à l'heure, et que donc je vais dans ce temple pour louer Dieu, pour l'adorer. Je reprendrai du coup ça la prochaine fois. Je voudrais insister sur un point, c'est de quoi est fait ce temple. C'est à la page 26, c'est le deuxième paragraphe. De même donc que toute église de pierre est élevée pour nous réunir en paroisse ou en communauté, ainsi l'édifice mystérieux qui est nous-mêmes se construit pour servir à Dieu d'habitation spirituelle. Mais il se construit non avec des matériaux terrestres, mais avec des actes de foi, de conversion et d'amour. Voilà, je voudrais insister là-dessus. La construction du temple intérieur se fait par des actes intérieurs, de foi, d'espérance et d'amour, de foi, d'espérance et de charité. Les trois vertus théologales, alors Augustin y insistera beaucoup, hein, il dit, nous rendons honneur à Dieu dans ce temple intérieur par la foi, l'espérance et l'amour. Et donc, qu'est-ce que je fais pour honorer Dieu, pour construire ce temple intérieur? On reprendra encore une fois, hein, la prochaine fois. Je fais des actes intérieurs de foi, d'espérance et d'amour qui sont comme les pierres de ce temple intérieur. Donc quand je dis, mon Dieu, je crois en toi, j'ai confiance en toi, quand je dis, mon Dieu, je te désire avec confiance, avec l'espérance, quand je dis, mon Dieu, je t'aime, je veux t'étreindre, te serrer, tu es mon trésor, tu es mon tout, tu es mon bien, quand je le dis au fond de mon cœur, je bâtis ce temple intérieur où Dieu sera infiniment loué et honoré.
Vous venez d'entendre la prière ou le retour à l'intériorité chez Saint Augustin, une conférence du Père Michel Leclerc, enregistrée dans le cadre de l'école de prière de la formation permanente du Béarn à Pau. C'était le 18 novembre 2025.